Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bon samedi et bon week-end. Il est bon hein, d'arriver en fin de semaine et de refaire un peu là le plein d'énergie ou encore à tout le moins de se rattraper pour les choses qu'on a dû un peu négliger tout au long de la semaine en raison des occupations très nombreuses du lundi au vendredi. Alors il nous fait plaisir d'être là, je suis donc en compagnie de Mac Wickfield, nous sommes vos deux co-animateurs de cette émission-là. Alors Marc, bien sûr, je vous salue.
Merci Raymond.
Et j'imagine que vous voulez dire un beau bye-bye, un beau temps, faire un gros bisou également à notre auditoire.
Un plaisir de passer ce temps chaque semaine avec vous Raymond et avec ceux qui nous écoutent aux ondes de CFOI.
Voilà, alors nous poursuivons notre marche à travers l'hymnologie, hein, à travers l'histoire des hymnes et ces grands hymnes, n'est-ce pas, qui ont fait la joie de nos cœurs, qui sont c'est tellement édifiant de chanter des hymnes. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit un jour qu'il a traversé une période de quelques années très, très, très difficile dans sa vie. Il était très éprouvé et il me dit, je lisais ma Bible chaque matin et il dit vraiment ce qui me tenait, c'était ma lecture matinale, mais durant toute la journée, à l'intérieur de moi-même, sur mon travail, je chantais des hymnes et c'est ce qui me gardait. Parce qu'effectivement, les hymnes sont censés être un reflet de la parole de Dieu, sont censés s'harmoniser hein, avec la révélation biblique. Mac, quel hymne épouse la révélation biblique ce matin, allez-vous nous présenter?
J'allais juste dire, pour compléter ce que tu disais, on trouve souvent que nos frères et sœurs, les prisonniers dans les prisons où on est persécuté fortement pour sa foi, souvent ils gardent leur morale et ils gardent leur courage, ils gardent leur foi d'ailleurs en chantant, parce qu'ils n'ont pas de quoi lire souvent dans les prisons, c'est la mémoire qui revient et ils chantent.
Et que faisait Paul et Silas?
Exactement.
En prison, ils chantaient.
Exactement, ça, et ça a eu un effet pas mal grand.
Hein. Effectivement, oui.
Nous allons écouter aujourd'hui une version du chant Abide With Me. C'est un chant qui a été écrit en 1847, et une première mise en musique de ce cantique, version chorale cette fois-ci, Raymond, avec le King's College Choir. Donc, Abide With Me. Voici les King's College Choir qui a chanté notre première version du cantique Abide with me. Je vais vous faire une traduction des quatre strophes de ce chant. Reste avec moi, la nuit tombe rapidement et l'obscurité s'approfondit. Seigneur, reste avec moi. Lorsque les autres aides ne sont plus fiables et le réconfort s'enfuit, toi qui aides les impuissants, reste avec moi. La courte journée de notre vie est très vite passée. Les joies de la terre pâlissent, ses gloires disparaissent. Tout ce que je vois change et tout se désintègre autour de moi. Toi qui seul ne changes pas, reste avec moi. J'ai besoin de ta présence à chaque heure qui passe. Quoi d'autre, à part ta grâce, peut déjouer la puissance du tentateur? Qui d'autre, sauf toi, peut être mon guide, mon appui? En temps nuageux ou ensoleillé, reste avec moi. Tiens ta parole devant mes yeux, qui ferme, brille à travers l'obscurité et dirige-moi vers le ciel. L'aube céleste s'approche et les ombres vaines de la terre se retirent. Dans la vie, dans la mort, ô Seigneur, reste avec moi.
L'importance de la présence du Seigneur. Très important de faire une nuance entre sentir la présence du Seigneur, ce qui serait un sentiment, et être conscient de la présence du Seigneur. Nous sommes conscients de la présence du Seigneur. Nous avons également l'attestation de cette vérité-là pour tous les croyants, pour ceux qui lui appartiennent, donc, et en même temps que nous en sommes conscients. Maintenant, parfois, on peut sentir ou non la présence. Les sentiments n'ont pas grand-chose à faire dans le dossier, mais nous savons que cette présence-là, elle est précieuse et qu'elle nous soutient. Alors, dans quel contexte cela a été rédigé, Mac?
L'auteur s'appelle Henry Light. Au moins, je crois que c'est comme ça on dit, L-Y-T-E, Light. Mm-hmm. L'auteur de ce cantique, un écrivain moins connu que la majorité, venu au monde en Écosse, 1er juin 1793. Il a été scolarisé à Trinity College à Dublin, en Irlande. Toute sa vie, il a été connu comme un homme fragile de corps, mais fort en foi et en esprit. Asthmatique, il souffrait aussi de la tuberculose, mais il travaillait sans arrêt, comme poète, comme musicien, comme pasteur. Nous avons en anglais le dicton « It's better to wear out than to rust out ». Il vaut mieux s'user que rouiller, je ne sais pas comment vous dites ça en français.
C'est bien traduit.
Voici le mot d'ordre du pasteur Light, en tout cas. Il a été aimé et apprécié de ses congrégations. Durant les années finales de sa vie, sa santé s'est détériorée de plus en plus au point qu'il fallait rechercher un climat plus chaud en Italie. Et à l'occasion de son dernier sermon, on écrit qu'il devait presque grimper à quatre pattes à la chaire pour livrer son message. Un message qui venait d'un homme mourant, vraiment. Dans ses dernières paroles, il voulait persuader ses paroissiens à se préparer pour l'heure solennelle qui doit arriver à tous en appréciant et en dépendant de la mort du Christ. Deux semaines plus tard, 20 novembre 1847, il est parti voir son Seigneur. Le texte de ce cantique a été rédigé peu de temps avant son dernier dimanche dans son église. Il a pris d'un récit qui nous est présenté dans les évangiles, Raymond. L'évangile de Luc, chapitre 24, le verset 29, « Reste avec nous ». Ce sont les gens sur la
route d'Emmaüs, oui, voilà. Effectivement.
« Le soir approche, le jour est sur son déclin ». Un des plus beaux récits des Écritures où Dieu, le Fils, se dévoile aux yeux de deux disciples. Il ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent sa parole. Et ce cantique de Henry Light qui invite Dieu à demeurer avec nous et à nous accompagner tout au long de notre vie s'est démontré une grande source de bénédiction pour beaucoup de chrétiens.
Amen. Et pour nous, en premier.
Voilà.
Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné, l'expression est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 24, où nous retrouvons les deux disciples dits d'Emmaüs, qui, je pense, effectivement, représentent fort bien des gens qui sont en besoin d'une visite, d'une conscientisation de la présence du Seigneur. Nous sommes en plein épisode post-résurrection, sauf que eux ne sont pas encore tout à fait au fait là du fait que le Christ soit ressuscité. Et il nous y rapportait, n'est-ce pas, au verset 13 de ce chapitre 24 de Luc, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est intéressant de voir dans quelle direction ils s'en vont. Ils s'en vont pas à Jérusalem, hein. À l'époque, Jérusalem, c'était la ville de toutes les espérances, là. Non, ils s'éloignent de Jérusalem. Pour eux, là, tout espoir est éteint, tout ce qu'ils avaient investi d'attente dans le Christ. Voilà que ça vient d'être évacué. Le Christ est mort. Bon, ils ont entendu quelques rumeurs de certaines femmes qui auraient dit qu'il serait ressuscité, mais rien pour les allumer littéralement. Et ces deux disciples-là, donc, lorsque Jésus se révèle à eux, comme vous l'avez mentionné, lorsqu'ils le reconnaissent, hein, lui disent immédiatement, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et c'est devenu le symbole de notre besoin du Seigneur. Le besoin du Seigneur au cœur même de nos vies. C'est un chant, c'est une prière qui sollicite la présence du Seigneur en toutes circonstances. La première strophe, que nous dit la première strophe, Mac?
Reste avec moi. La nuit tombe rapidement, l'obscurité s'approfondit. Seigneur, reste avec moi. Lorsque les autres aides ne sont plus fiables et le réconfort s'enfuit, toi qui aides les impuissants, reste avec moi.
Dans les jours sombres, hein, et nous en connaissons tous, dans les saisons d'épreuve, lorsqu'on réalise que toute aide humaine est impuissante, lorsqu'on a épuisé toutes nos ressources humaines, lorsque tout ce que le monde a à offrir ne peut d'aucune façon nous apporter quelque consolation, notre Dieu demeure le Tout-Puissant. Et ça, c'est un cantique composé par un chrétien, n'est-ce pas? Et ça va encore une fois à l'encontre de cette fausse théologie de la prospérité et du fait que tout va bien et qu'un chrétien n'a pas d'épreuve. Un chrétien est éprouvé. La grosse différence, bien sûr, c'est qu'il n'est pas seul dans son épreuve, hein, et que Dieu est présent et qu'il donne un sens même à cette épreuve-là. La deuxième strophe nous parle du caractère éphémère des joies terrestres. Vous diriez-vous à nouveau nous la relire, Max?
Effectivement, la courte journée de notre vie est très vite passée. Les joies de la terre pâlissent, ses gloires disparaissent. Tout ce que je vois change, tout se désintègre autour de moi. Ô toi qui seul ne change pas, reste avec moi.
Même les plus grands moments de joie que nous expérimentons dans nos vies pâlissent si rapidement. Combien de chants dans le monde ont été écrits, hein, qui expriment le désir de retenir l'instant présent parce que là, on vit un bon moment et on voudrait que le temps cesse de passer. On voudrait retenir ce moment-là. Tout ici-bas change, tout ici-bas disparaît. Et ça vaut pour tout ce qui est ici-bas, hein, parce que c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui décrit ce domaine, cette terre à laquelle nous appartenons, comme un royaume qui sera encore ébranlé, parce que nous appartenons à un royaume inébranlable. Donc ça vaut pour nos richesses présentes, ça vaut pour nos affections, ça vaut pour notre santé, et ça vaut pour notre vie même. Cependant, dans cette vie comme dans celle à venir, comme le dit le beau cantique, nous sommes au Seigneur. Sa présence ne nous fera jamais défaut et sa présence, c'est la paix. Sa présence, c'est la paix, la tranquillité, la sécurité. De sorte que on peut expérimenter ça même en ce beau monde, même dans les circonstances les plus difficiles. J'aime cette portion du psaume 23 qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et ma coupe déborde. Hein? Les adversaires sont là, il est menacé de toutes parts. Et qu'est-ce qu'il fait? Une table est dressée et il festoie. C'est le privilège que nous avons, nous, hein, comme croyants, conscients que nous sommes de la présence du Seigneur, même dans les moments difficiles, de conserver cette paix, cette tranquillité intérieure. La troisième strophe nous présente une belle confession de foi. Que nous dit-elle?
Il exprime ce besoin. J'ai besoin de ta présence à chaque heure qui passe. Quoi d'autre, à part ta grâce, peut déjouer la puissance du tentateur? Qui d'autre, sauf toi, peut être mon guide, mon appui? En temps nuageux, ensoleillé, reste avec moi.
Et quelle belle précision. L'auteur n'exprime pas son besoin de la présence du Seigneur uniquement dans certaines circonstances, hein? Lorsque tout va mal, lorsque sa vie tombe en morceaux, lorsqu'il se sent dépassé par les événements, lorsqu'il réalise son impuissance dans certaines situations. Non, à chaque heure qui passe. Le Seigneur sait nous préserver du mal. Il va dire à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous. » Vous savez, on apprécie beaucoup le fait que le Seigneur pardonne nos péchés, mais on réalise pas toujours le nombre de péchés que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous empêche de commettre. Le nombre d'erreurs aussi que le Seigneur, dans sa bonté, nous empêche de faire. Alors, nous avons ici la belle doctrine de la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Un Seigneur, par définition, ça règne. Il règne notre Dieu, il règne souverainement, il dirige nos vies, il dirige nos décisions, il doit diriger nos projets, elle reste. Il est Seigneur de nos vies. On avait cette espèce de doctrine extrêmement fâcheuse et regrettable un jour qui disait qu'on pouvait recevoir Jésus comme sauveur et le recevoir comme Seigneur quelques années plus tard, comme si on devait recevoir Jésus, comme n'est-ce pas, en bout de saucisse, là, un morceau à la fois. Notre sauveur, c'est le Seigneur. Et notre Seigneur, c'est le Sauveur. Lorsque Jésus entre dans une vie, il est Seigneur ou il n'est pas présent. C'est aussi simple que cela. S'il est présent, il est présent dans toute sa seigneurie. Alors, c'est dire que le Seigneur n'est pas là uniquement pour nous sortir du pétrin. Il n'est pas là uniquement pour répondre à tous nos caprices, hein, I'm a king's kid. Vous vous souvenez de cette fameuse théologie un peu bizarre, ouais. Nous sommes les enfants du roi, non? Hein, il n'est pas là pour répondre à tous nos caprices. Il est là pour nous diriger, pour nous transformer de gloire en l'image du Seigneur Jésus-Christ. La marche avec Dieu, c'est une relation et ça va infiniment au-delà d'une religion. Dans la quatrième strophe, là, on nous parle de quelque chose, encore une fois, de très important, le caractère central de la parole de Dieu, à savoir la Bible.
La base de tout. « Tiens ta parole devant mes yeux qui ferment. Brille à travers l'obscurité et dirige-moi vers le ciel. L'aube céleste s'approche et les ombres vaines de la terre se retirent. Dans la vie et dans la mort, ô Seigneur, reste avec moi. »
La parole de Dieu. La parole faite chair, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et la parole faite livre, sa révélation sur un support écrit. La Bible nous enseigne d'ailleurs, sans embâche, n'est-ce pas, que tout a été créé par la parole de Dieu, que tout est soutenu par la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes régénérés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une essence de vie qui donne la vie et qui opère des guérisons. Vous savez, c'est l'une des plus glorieuses vérités de la Nouvelle Alliance, c'est que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes assurés de sa présence. En fait, nous sommes assurés de sa présence parce que nous sommes devenus des habitations de Dieu. Nous sommes devenus des temples, hein? Dieu nous habite par son esprit. Jean 6, 56 nous dit, enfin c'est Jésus qui parle, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Et nous avons une pensée tout à fait similaire. Toujours dans l'évangile joannique, chapitre 14, verset 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Hein? La présence de Dieu, nous ferons notre demeure chez lui. Et toujours au chapitre 14, verset 16 et 17, dans la prière, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Passez-moi un petit peu de grec ici, là, un allos parakletos, ça veut dire un consolateur de même nature, un consolateur divin, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. La présence de Dieu par son Esprit Saint. Jean 15, 14 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aime cette pensée que nous diffusons à CFOI qui dit « Le fruit... » Qu'est-ce que c'est donc? Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit si l'arbre est bon ou mauvais. Et si nous avons la vie en nous, nous allons effectivement, d'une certaine façon, manifester ce fruit de l'Esprit. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus sans péché, n'est-ce pas, que nous sommes d'ores et déjà glorifiés, mais nous sommes en marche dans la sanctification progressive. Reste avec nous. Marc.
Merci Raymond pour cet enseignement. Reste seulement à vous présenter une deuxième version du chant, je pense. Cette fois-ci, ça sera bien sûr « Abide with me », mais selon une harmonie un peu autre que la traditionnelle. Ça sera chanté par un groupe du nom de Eden's Bridge. Donc, « Abide with me ».
Et tout juste avant de procéder à l'audition de cette dernière version, nous voulons vous dire bonjour, bonne semaine, vous remercier d'avoir été là encore aujourd'hui, merci de votre fidèle écoute, et nous vous espérons une fin de semaine bénie, et nous savons que la bénédiction vient effectivement du Seigneur, et qu'il y a une bénédiction particulière lorsque nous mettons à profit les moyens de grâce, et parmi ceux-là, bien sûr, il y a les rencontres de l'Église demain. On souhaite véritablement que vous soyez à votre Église demain, exposés à la parole du Seigneur, et à la communion fraternelle. Donc, place à cette dernière version, cette dernière écoute de cette version du cantique « Abide with me ».
Fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the There's morning breaks and shadows flee, in life, in death, or above.